celle qui a entendu ces dernières paroles de Jésus, celle qui les a gardées comme un trésor dans son cœur, c'est Marie. Nous lui demandons qu'elle nous donne la même attitude, la même intériorité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Il nous fallait commencer, comme on l'a fait hier soir, hein, par cette contemplation de Jésus ressuscité. Jésus pain de vie, Jésus avec nous jusqu'à la fin. Vous savez tous que la Passion de Jésus, c'est le premier document qui a été écrit. Tout l'Évangile tourne autour de la Passion. C'est par là qu'on a commencé. On a pu regarder la Passion. Ce qui a scandalisé le plus, qu'à la lumière de la résurrection. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, impossible de revenir sur cette histoire. Impossible. Elle était trop douloureuse. Et les disciples d'Emmaüs nous le disent bien. On avait cru. Et maintenant, dans nos vies, quand on a été déçus au lieu le plus précieux, on ne peut plus se relever. Et les disciples d'Emmaüs et Thomas l'apôtre, hein, vous savez vous dire tout ce que vous voudrez. Si je ne mets pas ma main dans les trous de ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Donc c'est à la lumière de la résurrection que la Passion a été écrite. Puis après, on s'est souvenu des gestes, des paroles, et puis l'Évangile, les Évangiles, donc se sont constitués. Ces sept dernières paroles, pourquoi sept? Ben, y en a sept. Sept dons du Saint-Esprit, sept béatitudes. Et nous savons que le chiffre sept, c'est le chiffre plénier, divin, sept jours de la création. Il y a sûrement des liens entre les sept paroles, les sept dons du Saint-Esprit et les sept béatitudes. Je suis sûr qu'il y a des écrits là-dessus, je ne les ai pas trouvés, mais je suis sûr qu'il existe. Ces sept paroles, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première. C'est Jésus qui demande que le Père pardonne au nom de toute l'humanité. Christ, dans son humanité, prie en nous. Il ne faut jamais que nous l'oublions. Quand nous sommes réunis en Église comme maintenant, c'est le Christ au milieu de son peuple qui agit. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Première parole. Deuxième, qui est comme sa résonance dans le cœur du crucifié à côté de lui. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. Deuxième parole, c'est comme la résonance de la première. Troisième parole, Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mystère d'une humanité en pleine transformation. Le nouvel Adam et la nouvelle Ève commencent leur travail avec le premier enfant prêtre, Jean. Et dans ce regard, c'est toute l'humanité qui est comprise à nouveau. Peuple de prêtres, peuple de prophètes, peuple de rois. Après, il y a ce cri de soif. J'ai soif. Cri de soif qui est un cri d'amour pour toute l'humanité. J'ai soif. Et puis, cette replongée dans les ténèbres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parole énigmatique entre toutes, même si elle reprend le psaume. À la fois, elle l'inclut, mais elle le dépasse complètement. Et puis, tout de suite après, heureusement pour nous, Père, en tes mains, je remets mon esprit. L'abandon filial dans lequel l'humanité désormais se trouve. Elle peut appeler Dieu Papa, Abba. La relation est rétablie. Et puis, la dernière, finale, tout est accompli. Tout est achevé. Dieu a sauvé le monde. À ceux qui le veulent, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà donc ces sept paroles que nous allons, pendant ce week-end, contempler, méditer. C'est la présence de celui qui nous aime, et qui nous aime infiniment. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Cet élèvement, il commence par la croix, il se continue par l'ascension. Mais la croix, c'est la gloire. C'est vraiment la gloire. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu. Il est dans le bonheur de celui qui nous sauve, qui sauve son épouse, sa petite fiancée. Vrai homme, il souffre comme personne n'aura jamais souffert sur la terre et comme personne ne sourira sur la terre, parce qu'il contient tout. Il contient toute souffrance. Il a tout porté parce qu'il est vrai Dieu. On essaiera de creuser ce rapport entre ce vrai Dieu et ce vrai homme. Dieu impassible. Dieu ne peut pas souffrir. Toute la tradition religieuse le dit. Mais en Jésus, il compatit à la souffrance humaine et il la prend sur lui. Donc quand il est levé sur la croix, il est dans la gloire. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est là que tout l'évangile s'éclaire. Dans ces dernières paroles qui sont comme son testament. Nous le savons bien, un papa, une maman, un fils, une fille, un enfant. Ces dernières paroles, il m'a dit ça. C'est le testament. Déjà quand il est en agonie, ligoté, il n'a plus de liberté humaine. On lui a pris sa liberté. Mais moins il y a de liberté extérieure, plus il y a de liberté intérieure. Et crucifié, il est cloué de partout. Il est libre, souverainement libre. Père, pardonne-leur. Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Et tout l'évangile reprendra corps à partir de la croix de Jésus-Christ, croix de Jésus-Christ qui est notre sagesse pour nous, chrétienne et chrétien. Donc ce lieu de la croix, c'est le lieu de la gloire. Il est bien plus glorieux sur la croix qu'à la transfiguration. La transfiguration, elle était donnée pour que nous puissions le supporter dans cette épreuve, pour que nous croyions comme tous les signes de Jésus. Quand il est sur la croix, il est sur la gloire. Il est cet trône de gloire. C'est un trône royal. Et tous les saints, Thérèse, Élisabeth de la Trinité et tous les autres, demandent cette grâce de pouvoir s'approcher de lui. C'est le lieu où il nous sauve. C'est le lieu du plus grand amour qui soit. À la fois, l'oppression est totale, et en même temps, et c'est paradoxal, non pas catholique, contradictoire, la liberté est totale. Et c'est très important pour nous qui accompagnons les mourants, par exemple, de savoir que pour nous qui sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu, l'extérieur peut être insupportable, mais l'intérieur est une libération totale et absolue. C'est mystérieux. Il y a l'Esprit Saint au plus intime de notre cœur qui lui enveloppe et assume tout. Donc ce premier temps, c'est de regarder Jésus dans sa gloire. Il est glorieux. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ce sera le lieu où toujours nous allons désormais revenir, jusqu'à ce qu'ils reviennent. On peut même dire plus. On peut dire que Marie a gardé dans son cœur les traits du crucifié. Eh bien, toute souffrance, toute détresse, toute agonie pour Marie, immédiatement, faisait penser à Jésus. Immédiatement. Hein? Comme l'aimer, le souvenir de l'aimer, va revenir à une certaine époque, à certains événements. Eh bien, l'événement entre tous, ce sera son petit qui agonise, son petit qui est crucifié. Son petit qui crie vers le Père et qui nous rend à nous-mêmes. Alors on a cette alternance à la fois d'une souffrance insupportable et puis on a cette alternance de la gloire, de celui qui est dans la gloire. Alors il ne faut rien négliger. Et nous, c'est pas si facile, parce que, en général, nous disons une chose ou une autre. Hein? Ou bien c'est ça, ou bien c'est ça, mais ne me racontez pas d'histoire. Eh bien non, c'est ça et ça. Et ça nous laisse dans le mystère, dans notre vie quelquefois. Ah ben, ou bien il souffre, ou bien il est dans la gloire. Mais ne me dites pas qu'il est à la fois dans la souffrance et dans la gloire. Notre misère, c'est toujours de couper ce que Dieu a uni, de séparer ce que Dieu a uni. Il est à la fois dans une souffrance impossible et il a dans la gloire la plus grande qui soit. Prenons ce lieu d'abord de la souffrance. Et puis demandons à Marie, eh bien, de l'accompagner, Jésus, là où il est. Et surtout, de l'accompagner dans tous celles et ceux qui souffrent. J'avais faim, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, et vous m'avez visité, vous m'avez soigné. Jésus, dans notre humanité, qui nous représente vers le Père, et en même temps, nous-mêmes, dans notre humanité, qui vivons son mystère. Le corps du Christ qui est l'Église. À la fois, il est celui que nous prions, et en même temps, il est celui qui est prié par nous. Et en même temps, il prie en nous. Alors je lis un petit passage de Ravanel. C'est un père des foyers de charité qui a écrit un livre, Marie de cœur à cœur. Donc c'est à la page 94. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. C'est dans un contexte d'extrême douleur que Jésus prononce ces paroles, qui sont les dernières avant sa mort. Son cœur est disloqué par la volonté des hommes. Son corps est disloqué par la volonté des hommes. Il est littéralement massacré par l'orgueil de ses adversaires. Les pécheurs ont prévu le supplice le plus affreux, faire mourir par étouffement celui qui n'a été que douceur. Vous savez que ce supplice de la crucifixion, on a demandé qu'il soit retiré. Comme aujourd'hui, on demande que tous les supplices soient retirés, bien entendu, et même la peine de mort. Tu ne tueras pas. C'est mystérieux, cette évolution de l'humanité. Catherine de Sienne, dans son expérience mystique, nous donne les précisions suivantes. Elle affirmait que le plus grand supplice du Sauveur en croix avait été la dislocation des os de la poitrine. En preuve et signe de cette affirmation, elle assurait qu'ayant éprouvé elle-même en son corps, à certains moments, toutes les douleurs de la passion, elle ne sentait de façon permanente que celle de la poitrine. Son corps est disloqué, mais son âme est infiniment douloureuse. Il nous a aimés jusque-là. Lui qui est tout amour se sait trahi par les siens et condamné par les puissants de l'époque, les docteurs de la loi, les membres du Sanhédrin. Dans ce drame mystique du monde se vit la dureté de tous les pécheurs qui se déchaînent. Ce sont nos péchés, nos manques d'amour qui font cruellement souffrir le Seigneur. Qui n'a entendu les souffrances d'un fiancé ou d'une fiancée dont l'amour est soudainement bafoué par l'autre et qui préfère se retirer? La première goutte de sang versée par Jésus l'a été à l'agonie. Et dans ce sens, tout ce que nous pouvons vivre trouve un éclairage dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un lieu de notre vie que la parole éclaire et pour nous être familier de la parole de Dieu, du mystère de Jésus et de Jésus dans sa souffrance, parce que notre vie, il faut bien le reconnaître, c'est une vie de souffrance, c'est bien évident. Une vie de joie, bien sûr, aussi, c'est vrai. Mais nous le savons bien, tout se terminera par la mort. Et la mort, ce sera vraiment la remise de tout. Et s'il y a une chose dont on est sûr, c'est de celle-là. Ça, c'est évident. Donc, tout prend corps dans le cœur du Christ. Et quand ce père Ravanel dit, voilà, celui qui a été trahi dans son amour peut comprendre quelque chose de la trahison de Jésus. Ce lieu de douleur extrême peut faire comprendre ce qui s'est passé chez Jésus et trouver à l'intérieur consolation, puisque Jésus est là. Et Jésus, il est la consolation. La première goutte de sang versée par Jésus l'a été dans son agonie. C'est important pour nous de le savoir.
Parce que ça veut dire que la souffrance intérieure est encore plus grande que la souffrance extérieure. Et la souffrance du corps va alléger la souffrance interne, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a un lien entre les deux. La première goutte de sang versée par Jésus l'a été à l'agonie, alors qu'aucun sévice n'avait commencé et qu'il priait seul à Gethsémani. Et les médecins qui regardent disent que ce genre de phénomène, en général, provoque la mort. C'est les vaisseaux qui sautent à l'intérieur. Entré en agonie, il priait de façon plus intense et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Donc c'est avec un infini respect que nous écoutons ces paroles douloureuses dont nous sommes mystiquement responsables. Pas sous un mode de culpabilité, de culpabilisation, mais sous un mode de délivrance. C'est pour toi, disait Jésus à une de ses confidentes, que j'ai versé telle goutte de sang. C'est pour moi, et c'est ma délivrance, et c'est ma joie. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc c'est avec un immense respect que nous regardons ces paroles de Jésus. Et nous avons voulu nous préparer à les écouter dans l'adoration où il se donne à nous, pain de vie, ressuscité, vivant au milieu de nous, jusqu'à ce qu'il revienne. Ces paroles sont prononcées par un homme qui nous aime et qui veut nous manifester tout l'amour de son cœur. Et toutes nos souffrances, tous nos délaissements, tous nos abandons, tous nos divorces, que sais-je, ils viennent se réfugier là. Et là, nous trouvons la consolation. C'est pour ça que la croix de Jésus est notre sagesse. Seulement là, nous pouvons trouver la force de vivre ce que nous avons à vivre. Quel qu'il soit, quel qu'il soit. Faire allusion à Hetty. Jésus, dit-elle, je vais t'aider à ne pas mourir en moi. C'est quand même très étonnant, hein. Il y a un lieu où l'épouse se fait l'écho de l'amour de son bien-aimé. Je vais veiller à ce que tu ne meurs pas en moi. C'est étonnant. Alors, on pourrait renverser la proposition. Alors elle va mourir en lui. Mourir d'amour, diront les saints. Et pour nous, c'est capital que nous redevenions à ces nervures centrales dans un monde aussi troublé, bousculé, mouvementé, souffrant que le nôtre. Seule la croix de Jésus-Christ est sagesse. Mais à la condition que nous la regardions de l'intérieur et pas de l'extérieur. De l'extérieur aussi, mais à partir de Jésus ressuscité. Et il n'y a pas une souffrance, c'est Paul qui le dira, qui nous séparera de l'amour du Christ, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la mort, rien, rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et c'est très très très, très important pour nous. Parce que ça nous met enfin dans la paix. C'est Durwell, le théologien belge, qui soutient, et il a raison, que dans la mort même, Jésus se trouve. Quand le monde disparaît pour nous et que nous sommes seuls à mourir, il y a le passeur qui est au milieu de nous. Ce passeur, avant qu'il y ait des ponts, il y avait une petite barque qui emmenait les pèlerins d'un côté du fleuve à l'autre. Et le passeur, eh bien, il est le passeur. Dans la mort même, il vient et il s'y trouve jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mort, comme dira l'Apocalypse. Et c'est important pour nous. Ça nous montre comment il faut nourrir une intériorité. Dieu, au milieu de nous. Dieu dans notre vie, Dieu plus intime à nous que nous le sommes intimes à nous-mêmes. Il est là. Et comme il est là, nous n'avons rien à craindre, pas même la mort. Ces paroles sont prononcées par un homme qui nous aime et qui veut nous manifester tout l'amour de son cœur. Déjà au plan humain, l'amour véritable de l'autre est une force de vie étonnante pour nous. A fortiori, l'amour divin, puisque tout amour humain n'est qu'un signe de l'amour divin. Et de toute façon, tout amour de cette qualité est le Saint-Esprit en acte dans notre vie humaine, c'est évident. Ces paroles sont prononcées par un homme qui nous aime et qui veut nous manifester tout l'amour de son cœur. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Jésus, au début du chapitre 13, insistera sur ce mystère d'amour. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et il offre, dans ce sacrement de l'Eucharistie, qui est devenu la prière de Jésus quotidienne dans le monde, il offre à l'avance ce qui va advenir. Modèle pour nous d'offrir à l'avance tout ce que sera demain, y compris notre mort. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Eh bien, de notre vie, il en va ainsi. De quoi sera fait cet après-midi? Nous n'en savons rien. De quoi sera fait demain? Nous n'en savons rien. Mais déjà, je peux dire à Jésus, je te l'offre. Et tu seras avec moi. Et nous le vivrons ensemble. Donc, je peux rester dans la paix. Jésus ne se laisse pas envahir par la haine de ses persécuteurs. Ça, c'est le piège pour nous. De se laisser toucher par la flèche enflammée du mauvais. Or, dans la foi, il faut absolument mettre le bouclier de la foi. Et ne pas se laisser toucher. Tu n'entends pas ce que je te dis? T'as pas compris ça? Cette espèce d'agressivité, tu vas rentrer dans la colère. Non, bouclier de la foi, je ne rentre pas là-dedans. Bois toi-même tes poisons, dira Benoît au menteur. C'est un piège de rentrer dans la colère de l'autre. Oui, tu ne m'écoutes jamais. Non, je dois rester en Dieu. Et c'est parce que je suis en Dieu que je peux le mieux recevoir l'autre et le recevoir dans la paix et lui donner la paix. C'est capital pour nous dans nos vies. Et encore moins en discuter. Et encore moins en discuter ensemble. On ne fait que faire grandir la colère et la haine et la méfiance et la divisanie et la division. Non. Jésus ne se laisse envahir ni par la haine, ni par rien de ses persécuteurs. Qui me convaincra de péché? Et c'est capital, ça, pour nous. C'est vraiment capital. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la douceur de l'agneau qui rayonne sur la croix. Ce n'est pas du tout une insensibilité, puisqu'il prend tout sur lui. Mais il le prend en Dieu comme Dieu. C'est capital pour nous dans notre vie. À la croix, Jésus manifeste sa divinité. Il désarme la violence par la surabondance d'amour qui jaillit de son cœur. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand on a compris ça, on ne se met plus jamais en colère. En tous les cas, on essaie. Et puis quand la colère est là, eh bien, on la fait plonger immédiatement dans le cœur de Jésus. Oui, mais enfin, soyez vrai, dites-le, pop, pop, pop. Non, c'est déjà glisser sur la pente qui ne nous emmène qu'au fond du ravin, c'est tout. Demeurer en communion avec Dieu, demeurer en communion avec les autres, c'est laisser l'Esprit Saint nous saisir totalement. Ses ennemis ne sont pas parvenus à le vaincre. en le faisant déchoir par un seul péché. Qui me convaincra de péché ? Nous savons très bien la manœuvre du menteur, de l'adversaire, de l'ennemi de la nature humaine. C'est d'essayer tout doucement de nous faire rentrer dans son jeu. Alors ce sera la peur, l'angoisse, la violence, pour essayer que nous entrions dans son jeu. Et dès que nous sommes entrés dans son jeu, alors il nous mène par le bout du nez. Et puis ce sont les guerres, c'est notre monde. Ce sont ses vengeances, ses incompréhensions. Non, il ne le faut pas. Il ne s'est pas laissé vaincre par ses ennemis. Alors, c'est terrible parce que les gens immédiatement vous diront, oui, mais vous êtes insensible, vous ne comprenez pas, vous ne... Oui, et c'est le piège. Non, non, je reste dans le recul avec Marie et comme elle. On n'a pas vu Marie faire de l'hystérie au pied de la croix. Non, elle est debout, digne, forte de l'Esprit Saint. Et tout le reste vient du menteur. C'est une espèce de purification, de pacification énorme que nous pouvons, je crois, demander à Jésus et à Jésus crucifié. À la croix, Jésus manifeste sa divinité. Il désarme la violence par la surabondance d'amour qui jaillit de son cœur. Ses ennemis ne sont pas parvenus à le vaincre en le faisant déchoir par un seul péché. Qui de vous me convaincra de prêcher ? Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Le petit agneau. Dans une longue discussion relatée par Jean, il formulait clairement à ses contradicteurs, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Il faut sortir de la bataille, vous élever un tout petit peu plus haut grâce à l'Esprit Saint. Demeurez dans son amour. Saint Paul l'a parfaitement intégré. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même en prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est plus homme que jamais quand il est là. Par compassion. Alors, c'est ce que nous allons maintenant regarder, cette compassion. Comment se manifeste donc cet amour-là qui à la fois prend toute souffrance en lui et en même temps qui est Dieu. Et alors, il y a ce mot Hesed, l'amour fidèle, doublé d'une vérité unique, ou Emet. Il y a un deuxième, Ramim, c'est les entrailles de la femme qui porte. Et puis, Hanan, qui reprend tout l'ensemble. Alors, essayons d'entrer là. Quel est cet amour-là qui est capable d'assumer toute souffrance et la mort même, donc être plus intime à nous-mêmes dans notre souffrance que nous le sommes, et en même temps de nous en sortir. Voilà le lieu qui me paraît très très important. Alors c'est une réflexion maintenant de Ratzinger, de notre pape actuel. De Ratzinger, donc, Marie, première église. Donc, c'est à la page 78 de son livre. Il traite de ce sujet. « Chez Saint Bernard de Clairvaux, dit-il, c'est chez lui que se trouve ce mot admirable. Dieu ne peut souffrir, mais il peut compatir. Par là, Bernard met d'une certaine façon un point final à la discussion des pères sur la nouveauté du concept de Dieu. Dans la pensée des anciens, l'impassivité est au-delà. Dans la pensée des anciens, l'impassivité de la pure raison faisait partie inhérente de la nature humaine. Il sembla difficile au Père de s'écarter de cette conception pour penser Dieu en termes de passion. Mais à partir de la Bible, il se rendait pourtant bien compte que la révélation mettait en cause tout ce que le monde avait conçu de la divinité. On est au cœur du mystère chrétien, et c'est pour nous capital aujourd'hui, dans cette turbulence des religions. Où sommes-nous, nous, chrétiens, dans notre énoncé de Dieu? Et c'est capital aujourd'hui que nous ayons les idées claires, parce que de confusion, que de mensonges. Il se rendait pourtant bien compte que la révélation mettait en cause tout ce que le monde avait conçu de la divinité. Ils comprirent qu'il existait en Dieu une passion intime qui est sa nature même, l'amour. Et puisqu'il est celui qui aime, aucune souffrance entendue sous le mode de la compassion ne lui était étrangère. Dans ce contexte, Origène écrit dans son amour pour les hommes, l'impassible, celui qui est au-delà de toutes ces catégories, l'impassible a souffert une passion de miséricorde. On pourrait dire que la croix du Christ est la compassion de Dieu pour le monde. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, cette compassion de Dieu ne s'exprime pas par un terme qui relève de la psychologie. Mais selon la manière concrète de la pensée sémitique, il est désigné par un mot qui, dans sa signification fondamentale, vise un organe du corps humain, c'est-à-dire « ramim », ce qui au singulier signifie « le sein maternel ». Comme le cœur est employé pour désigner les sentiments et que les reins et les entrailles désignent le désir et la souffrance, le sein maternel est employé pour exprimer une présence auprès d'autrui, la référence la plus profonde de l'aptitude de l'homme à être là pour un autre. Pour un autre. À l'accueillir et lui à apporter son soutien, son appui, pour lui donner courage. C'est par un mot emprunté au domaine du corps humain que l'Ancien Testament nous indique comment Dieu nous met en sécurité en nous témoignant un amour de compassion. La plus belle image de Dieu, c'est Marie, c'est la femme dans sa compassion. Elle enveloppe littéralement son aimé et veut prendre tout son mal sur elle pour l'en délivrer. Voilà l'image. Alors, il fait référence à partir de là à Jean-Paul II, quand il a lui aussi écrit, la miséricorde divine. Donc c'est la page 38 et c'est la note 52. Ça vaut la peine de prendre tout petit peu de temps sur ce vocabulaire parce qu'il nous situe bien là où nous sommes, dans l'appréhension donc de cette souffrance de Jésus et de sa compassion pour l'humanité. Pour définir la miséricorde, les livres de l'Ancien Testament emploient essentiellement deux expressions. Chacune d'entre elles a une nuance sémantique différente. En tout premier lieu, il y a le terme « hesed » qui indique une profonde attitude de bonté. Lorsqu'il indique les rapports entre deux hommes, ceux-ci sont non seulement bienveillants l'un envers l'autre, mais en même temps réciproquement fidèles, en raison d'un engagement intérieur, et donc aussi en vertu d'une fidélité à l'égard d'eux-mêmes. Vous m'arrêtez, et puis si je vous ennuie, dites écoutez, passez un peu plus loin, mais ça me paraît important. Ceci, hesed, signifie aussi grâce ou amour. C'est précisément sur la base d'une telle fidélité. Le fait que cet engagement ait un caractère non seulement moral, mais quasi juridique, ne change rien. Lorsque dans l'Ancien Testament, le mot hesed est rapporté au Seigneur, cela arrive toujours en rapport à l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. De la part de Dieu, cette alliance fut un don et une grâce pour Israël. Cependant, puisque, en cohérence avec l'alliance conclue, Dieu s'était engagé à la respecter, Hesed acquérait en un certain sens, un contenu légal. Il y va de l'honneur de Dieu, d'être fidèle à Dieu. Et vous allez voir que l'alliance qui bâtit sous un mode réciproque, eh bien, va arriver à un mode univoque. L'autre n'est pas fidèle, eh bien, moi je serai fidèle sur l'honneur. Dieu est Dieu. Et nous serons inclus dans la fidélité de Dieu, ce qui est très important pour nous. Dieu prendra notre place. Et là voilà la compassion de la croix par laquelle il nous sauve. Je continue. L'engagement juridique de la part de Dieu cessait de l'obliger lorsqu'Israël enfreignait l'alliance et n'en respecte pas les conditions. Tu n'as pas été fidèle ? Eh bien moi non plus, je reprends mes billes. Pas Dieu. Dieu doit être fidèle à lui-même comme Dieu. Donc même si je suis infidèle, lui demeurera fidèle. Et c'est dans la fidélité de Dieu que désormais je me trouve. Je continue. Mais précisément alors, Hesed, cessant d'être une obligation juridique, révélait son aspect plus profond. Elle se manifestait telle qu'elle était dans son principe, c'est-à-dire comme un amour qui donne, un amour plus puissant que la trahison, une grâce plus forte que le péché. Cette fidélité à l'égard de la fille de mon peuple, infidèle, c'est tous les textes qui sont cités derrière, est en définitive de la part de Dieu, fidélité à lui-même. Dieu est fidèle. Et donc, il m'emporte dans sa fidélité, même si je deviens infidèle. C'est toute la place de la miséricorde par rapport à la justice qui est derrière, que Thérèse de Lisieux a si bien compris et a révolutionné la spiritualité. Avec Dieu, ça ne peut pas être donnant-donnant. Il faut recevoir son amour infini. Et dans son amour infini, je peux redire de l'amour. Cela apparaît évidemment surtout dans le retour fréquent du binôme Hesed, où il met grâce et fidélité. Dieu, non seulement m'aime, mais il est fidèle à son amour. Qu'on pourrait considérer, voilà. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, maison d'Israël, mais c'est grâce à mon Saint-Nom. Ainsi, Israël, accablé de fautes pour avoir enfreint l'alliance, ne peut prétendre avoir droit à la fidélité, à l'amour infini de Dieu. Il a été infidèle. Eh bien, si, Dieu sera fidèle pour deux. Et c'est très important pour nous de le comprendre. Il peut et il doit garder l'espoir et la confiance de l'obtenir, parce que le Dieu de l'Alliance est réellement responsable de son amour. Le fruit d'un tel amour, c'est le pardon et la restauration dans la grâce. Donc, c'est notre croix qui nous remet dans l'amour infini de Dieu. Le fruit d'un tel amour, c'est le pardon et la restauration de la grâce, le rétablissement dans l'alliance intérieure. C'est en Dieu que je peux me retrouver fidèle et aimant, pas autrement. C'est des petites nuances, mais elles sont très importantes pour comprendre la croix. Le second mot qui sert dans la terminologie de l'Ancien Testament à définir la miséricorde est « rahamim ». Il a une nuance différente de celui de « hesed ». Tandis que ce dernier met en évidence ses caractères, être fidèle à soi-même, être responsable de son amour, qui sont en un certain sens des caractères masculins. « Rahamim », déjà dans sa racine sémantique, dénote l'amour de la mère. L'amour de la mère, Rahem, le sein maternel, du lien très profond et originaire, et même de l'unité qui lie la mère à l'enfant, naît un rapport particulier avec lui, un amour tout spécial. De cet amour, on peut dire qu'il est entièrement gratuit, qui n'est pas le fruit d'un mérite, et que sous cet aspect, il constitue une nécessité intérieure, c'est une exigence du cœur, c'est une composante de l'amour. Voilà un dégagement, et c'est dans cet amour-là qu'il faut que nous naviguions. Il y a une variante presque féminine de la fidélité masculine à soi-même exprimée par la Hesed sur cet arrière-fond psychologique. Rahamim engendre une échelle de sentiments parmi lesquels se trouvent la bonté et la tendresse, la patience et la compréhension et la promptitude à pardonner. C'est très beau. L'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu bien au-delà, puisque nous ne sommes que l'image. Mais cependant, l'image porte des vestiges de ce que Dieu est dans son mystère. L'Ancien Testament attribue au Seigneur justement ses caractères quand il parle de lui en utilisant le terme de Rahamim. Nous lisons dans Isaïe, une femme, oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Et nous retrouvons dans une expérience humaine qui nous permet de voir comment nous pouvons appréhender le mystère de Dieu. Et nous sommes là au cœur de notre dynamique de la croix, où Dieu est fidèle pour deux et Dieu va porter comme une mère. Et il va nous tirer du marasme dans lequel nous sommes pour nous rendre libres et au-delà de tout ce qui pouvait nous emprisonner. Cet amour fidèle et invincible, grâce à la force mystérieuse de la maternité, est exprimé dans les textes vétérotestamentaires de manière diverse. Comme salut dans les dangers, spécialement ceux qui viennent des ennemis, mais aussi comme pardon des péchés à l'égard des individus et de tout Israël. C'est la seule manière de régérer l'humanité. Oui, mais j'ai fait ça. Tu comprends, après ce que j'ai fait, tu peux plus me recevoir. Eh bien, si! Vous voyez, c'est ce surabondant, ce tremplin qui fait rejaillir. Et plus j'aurais été bas dans ma misère, eh bien, plus je monterai haut, dit Saint Jean de la Croix. Dans ce sens, il faut une confiance en Dieu absolue, une confiance les uns dans les autres absolue. On ne pourra jamais être dans le désespoir. L'espérance prendra le pas avant. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai de bon cœur. Il n'y a rien de plus régénérant que le pardon de l'aimer à son aimé. Et là, à nouveau, notre expérience humaine vient au secours de notre compréhension du mystère de Dieu. Si un jour nous avons vraiment pardonné du fond du cœur, alors que nous avons été blessés mortellement, eh bien là, nous commençons à comprendre comment le mystère de Dieu se donne à nous. Et on est en plein au cœur des paroles de Jésus sur la croix. De la sorte, nous héritons de l'Ancien Testament, comme en une synthèse spéciale, non seulement la richesse des expressions utilisées par les livres pour définir la miséricorde divine, mais aussi une psychologie, évidemment, anthropomorphique, qui est propre à Dieu. L'image émouvante de son amour, qui, au contact du mal, et en particulier du péché de l'homme et du peuple, se manifeste comme miséricorde. Cette image est composée en plus du contenu général du verbe « hanan », du contenu de « hesed » et de celui de « rahamim ». Le terme de « hanan » exprime un concept plus large. Il signifie en effet la manifestation de la grâce qui comporte, pour ainsi dire, une prédisposition constante, magnanime, bienveillante et pleine de clémence. « Je te poursuivrai par mon amour !» Et c'est mon amour qui sera vainqueur, et non pas le péché. C'est très, très, très important pour nous. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est suffisant. Alors, voyons où est-ce que nous sommes. Eh bien, reprenons donc en terminant. « Et lorsqu'ils vinrent sur le lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent. » Après ce que nous venons de dire, la malice humaine, la violence humaine, la méchanceté de l'homme ne viendra pas à bout de Dieu. Et le menteur sera démasqué dans son mystère d'iniquité. Et l'homme, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, sera délivré. Et lorsqu'ils vinrent sur le lieu appelé le crâne, là, ils crucifièrent lui, Jésus, et les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Or, Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Première parole de Jésus en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais je crois que c'est assez pour ce matin, ça va? Demandons à Marie de nous accompagner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.